propose que nous regardions quelques scènes d'Élie, spécialement la dernière, avec les éléments dans lesquels nous pourrions retrouver chacune des strophes, des cantiques que nous venons de chanter. Deux ou trois expressions avant d'arriver aux dernières scènes. 1 Roi 17. Et Élie le Tisbite, dans les habitants de Galaad, l'autre côté du Jourdain, dit à Agab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Et la note nous dit que le nom de Élie signifie en hébreu Dieu et l'Éternel. Dieu est l'Éternel, ou dont le Dieu est l'Éternel. Au chapitre 18, verset 36. À l'heure où l'on offre le gâteau, Élie, le prophète, s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Et le bois et les pierres et la poussière et l'échalot qui étaient dans le fossé. Et tout le peuple le vit, ils tombèrent sur leur face et dirent, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie disant, « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi y ajoute, si demain à cette heure je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux, c'est-à-dire des prophètes que Élie avait égorgé. » Fin du verset 40. Élie les fit descendre, c'est Élie qui les égorge là. Ainsi me fassent les dieux, ainsi il y ajoute, si demain à cette heure je ne mets pas ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sa vie et vint à Beersheba, c'est-à-dire tout à fait au sud, la dernière oasis au sud du désert de Juda, qui appartient à Juda, et il y laissa son jeune homme. Il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genêt. Il demanda la mort pour son âme et dit, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je relis le verset 3, « Il se leva et s'en alla pour sa vie. » C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. Au chapitre 21, donc Jézabel fait lapider Naboth, qui, en accord avec les commandements de l'Éternel, ne veut pas dilapider l'héritage ni donner la vigne à Akab. Un roi 21, verset 15. Verset 17. Et la parole de l'Éternel vint à Élie, le Tisbite, disant, lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici, il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession, et tu lui en parleras disant, « Ainsi dit l'Éternel, as-tu tué et aussi pris possession ?» Et tu lui parleras disant, « Ainsi dit l'Éternel, au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang à toi aussi. » Jacob dit à Élu, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il dit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Voici, je fais venir du mal sur toi, j'ôterai ta postérité, je retrancherai d'Akab tous les mâles, hommes liés. » Verset 23, et aussi à l'égard de Jézabel, l'Éternel parla disant, « Les chiens mangeront Jézabel à l'avant-mur de Jisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront. » Un roi 22, dernier paragraphe, verset 52. Et Akazia, fils d'Akab, commença de régner sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, Akab, et dans la voie de sa mère, Jézabel, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël. Et il, Akazia, servit Baal et se prosterna devant lui. Et provoqua à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 Rois 1, qui fait exactement ce qui est tout à fait la suite de 1 Roi. La division entre le premier et deuxième livre des Rois n'est arrivée que plus tard dans le canon. Et Moab se rebella contre Israël après la mort d'Akab. Et Akazia, donc le fils d'Akab, tomba par le treillis de sa chambre haute à travers les barreaux de la fenêtre de sa chambre haute qui était à Samarie, il en fut malade. Il envoya des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je relèverai de cette maladie. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? Et c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras certainement. » Et il y partit. Et les messagers, je cherchais à regarder où il était assis, c'est fin du verset 9, il partit, voici il était assis au sommet d'une montagne. Donc Élie partit et monta au sommet d'une montagne. Verset 5, les messagers revinrent vers Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous ? Et ils lui dirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Et Akazia leur dit, quelle manière d'homme était-ce ? Qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces choses ? Et lui dirent, un homme vêtu de poils, manteau de poils de chèvre, et ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. Et il dit, c'était l'île Tishbite. Il envoya vers lui, Akazia envoya vers Élie, un chef de cinquantaine et sa cinquantaine, et il monta vers lui. Voici, il était assis au sommet d'une montagne. Et il, le chef de cinquantaine, lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Élie répondit et dit au chef de cinquantaine, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta cinquantaine. Et le feu descendit des cieux et le dévora, lui et là et sa cinquantaine. Et Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquantaine et sa cinquantaine. Et il prit la parole et lui dit, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, descends promptement. » Et Élie répondit et lui dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta cinquantaine. » Et le feu de Dieu descendit des cieux et le dévora, lui et sa cinquantaine. Et Acasia envoya de nouveau un chef d'une troisième cinquantaine et sa cinquantaine. Et ce troisième chef de cinquantaine monta, c'est-à-dire jusque vers au pied d'Élie, et vint et se mit à genoux devant Élie. Et le supplia et dit, « Homme de Dieu, je te prie, que ma vie et les vies de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu des cieux et a dévoré les deux premiers chefs de cinquantaine et leur cinquantaine. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, ne le crains pas. » Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il dit au roi, « Ainsi dit l'Éternel, puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, est-ce parce qu'il n'y avait point de Dieu en Israël pour consulter sa parole ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Et il mourut selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait prononcée. Et Joram, le frère d'Acasia, le fils d'Akab, régna à sa place en la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Il n'avait pas de fils. Dans le même chapitre, verset 11, il arriva comme Élie et Élisée allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, que voici un char de feu et des chevaux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et Élisée saisit ses vêtements, les déchira en deux pièces, il releva le manteau d'Élie qui était tombé dessus lui et s'en retourna au bord du Jourdain. Verset 15, les fils des prophètes le virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent devant lui en terre. L'histoire d'Élie est fort attachante et fort instructive et occupe bien de la place dans le premier livre des rois essentiellement. Et je répète, il faut bien voir que le second livre des rois, c'est tout à fait la suite du premier, sans aucune interruption chronologique ni aucune raison de séparation. Élie commence sa carrière devant l'Éternel. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Élie termine sa carrière dans la présence de Dieu. Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Que te rendre, ô bon Père, donne-nous des cœurs obéissants. Eh bien, c'est Élie. Nous voyons Élie dépendant, voyons Élie, prophète d'Israël, qui enseigne peu, qui fait essentiellement des signes, des miracles, beaucoup en jugement, d'autres en grâce avec la veuve Sarepta, pour la nourriture de la femme de sa famille, d'elle et son fils, pour la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Mais Israël s'était complètement éloigné de Dieu. Lorsque Akab, fils d'Omri, qui était nullement de descendance royale, qui était un chef d'armée, un roi 16, verset 32, Akab dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et Akab fit une achère. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Donc il construit un temple à Baal et il fit une achère. Et juste après, par contraste, Élie peut dire « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». Nous avons lu le feu qui descend du ciel, non pas pour consumer les prophètes de Baal, mais pour consumer l'Holocauste. C'est le feu en grâce, c'est le rappel du sacrifice de Christ, c'est le fondement de toute bénédiction pour celui qui s'approche de lui et qui reconnaît ainsi qu'il faut que celui qui s'approche croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il recherche. Il faut croire que Dieu est. En apparence, un roi 18, le peuple crie, le peuple tombèrent sur leur face et dirent « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu ». Si l'on s'en tient à ces dires-là, ces paroles, eh bien, tout le peuple savait qu'il y avait un Dieu en Israël. Et que ce Dieu, c'était le Dieu vivant, et dont Élie était le prophète. Jolie scène, l'hardiesse de la foi, l'énergie de l'esprit, l'énergie de l'obéissance, de la dépendance. Et Dieu donne, et il donne largement. Et l'histoire d'Élie avec les 400 prophètes, je crois, montre bien en effet toute la puissance que Dieu peut donner à un homme. Baal, Élie n'a aucune crainte devant ces prophètes de Baal. Il s'avance devant Achab, il s'avance, chapitre 18, verset 22, « Je reste moi seul le prophète de l'Éternel et les prophètes de Baal sont 450 hommes. » L'Éternel devant qui je me tiens donne donc une énergie toute particulière à Élie qui va le caractériser durant toute sa vie. Et cette énergie qu'il caractérise va aussi se retourner contre lui. Jézabel, qui nourrissait tous ses prophètes à sa table, c'est elle qui avait introduit Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Et il prit pour femme Jézabel, il alla et servit Baal, etc. Conseillère à mal faire, Jézabel. Et alors, ayant reçu cette menace de la part de Jézabel, dans la même promptitude, la même énergie qui est la sienne, voilà que Élie décide ce qui doit le concerner, ce qui doit lui arriver. Nous, en chapitre 19, nous avons lu deux fois ce verset 4, « Il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour. » Élie décide ce qui doit lui arriver. C'est assez, fin dans le même verset, 4, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. C'est l'homme qui décide, sans consulter Dieu, et l'énergie peut en effet se retourner quelquefois à notre détriment, dans la mesure où nous laissons sous cette énergie, non seulement percer, mais la agir de façon délibérée, la volonté personnelle, la volonté propre. Mais c'est là qu'intervient cette miséricorde de Dieu. Un bon et tendre père. Élie ne connaissait pas le bon et tendre père. C'est réservé aux rachetés du Seigneur. Scellé de l'Esprit, car l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est par l'Esprit que nous connaissons Dieu comme notre Père, donc pas dans l'Ancien Testament. S'il est mentionné en Ésaïe, tu es notre Père, c'est le Père créateur, comme Éphésiens, le Père est de tous, comme créateur. Mais voilà que le Dieu de miséricorde, de toute consolation, a prévu quelque chose que Élie n'aurait pas pu imaginer, que personne d'autre que Dieu lui-même n'aurait pu imaginer. Premièrement, il est remarquable de voir les soins de l'Éternel envers Élie dans cette période de découragement. Il n'y a aucun reproche, mais des signes qui lui montrent bien qu'en effet, il fait fausse route. Premièrement, c'est l'ange qui, par deux fois, lui apporte à manger. Au verset 1 Roi 19, verset 5, un ange le toucha, lève-toi, mange. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres d'eau chaude, les pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Il avait décidé pour lui-même son avenir et il ne veut pas en démordre. Il se recouche. Nous reconnaissons bien, non pas dans l'énergie de la foi d'Élie qui est un exemple, mais nous reconnaissons bien dans cet abattement, dans ce découragement, et je dirais dans cette obstination. Il se leva pour Sali et il dit à l'Éternel, « C'est assez, maintenant prends mon âme, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande à Dieu. » Nous comprenons bien que ce n'est plus la pose du caractère, la position intérieure d'Élie qui peut dire à Acab, « L'Éternel devant qui je me tiens ?» Au contraire, il s'enfuit devant l'Éternel. Mais ce qui est si joli, c'est de voir que ce tendre Père, plein de miséricorde, tant de consolation, n'abandonne jamais les siens. C'est le Seigneur envers ses disciples. Jusque à quand vous supporterez, jusque à quand serai-je avec vous? Mais il est toujours resté avec eux. De même que Moïse et Josué et Caleb sont restés avec le peuple les 38 ans de marche dans le désert. De même que Néhémie, malgré tous les écarts du peuple, qui doivent le mettre en colère, il arrache les cheveux des hommes, Néhémie n'a pas abandonné le peuple. Eh bien, Dieu ne nous abandonne pas. Quelle grâce! Et on retrouve en effet les différents côtés du cantique que nous avons chanté. L'ange qui le touche, Élie qui continue dans son obstination, qui se recouche, qui s'endort, indifférent aux soins de Dieu. Mais verset 7, l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha. Lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Et voilà que, avec la force de ses aliments, Élie qui était un homme vigoureux, on le voit auparavant courir devant le char d'Akab, 1 Roi 18, 46. La main de l'Éternel fut sur Élie, saignit ses reins, il courut devant Akab jusqu'à Jisraël, c'est-à-dire devant le char d'Akab. Et puis voilà qu'alors, avec la force de ses aliments qu'il avait pris par deux fois, Élie s'en va le chemin 40 jours et 40 nuits. L'Éternel s'occupe de lui avec deux questions, la même question répétée deux fois. Et on retrouve, comme on va le voir, 2 rois 1, que ce n'est pas la peine de changer. On l'a dit une fois, ben ça suffit une fois, et si on doit le répéter, ben on répète la même chose. Au verset 10, l'Éternel vint à lui. L'Éternel vint à lui. Que fais-tu ici, Élie? Et au verset 14, et voici une voix lui parla et dit, que fais-tu ici, Élie? C'est la voix de l'Éternel qui se promène au frais du jour dans le jardin, qui demande à Adam, où es-tu? Tiens, tu te caches. Il demande à la femme, qu'as-tu fait? Où es-tu? Qu'as-tu fait? Que fais-tu ici? Que nous ne laissions pas de côté les questions que le Seigneur nous pose, que l'Esprit de Dieu place dans nos consciences. Que fais-tu ici? Tu es sûr que c'est ta place? Tu es sûr que Tu m'honores, tu es sûr que c'est moi qui t'ai envoyé là. Non, on ne le reverra pas. Au chapitre 2 rois 1, à 3 ou 4 reprises, l'Éternel, Élie dit l'Éternel m'envoie. Il est à Jéricho, à Bethel, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. L'Éternel m'envoie. Et là, on retrouve alors 2 rois 1, Élie obéissant. Ici, que fais-tu ici, Élie? Et la plupart de ce que nous appelons souffrance, détresse, grand malheur, c'est à cause de nos manquements. Et ce n'est pas des circonstances qui doivent changer, c'est l'état de nos cœurs. Ce qui doit changer, c'est la repentance, c'est la confession. C'est reconnaître que nous sommes écartés de lui. Et s'il y a souffrance, s'il y a détresse, s'il y a découragement profond, dont on parle souvent, et bien, bien souvent, sinon la plupart des cas, beaucoup plus qu'on ne pense, il y a un mal caché. Et nous parlons par expérience, nous avons souvent rencontré ce cas-là. Ah, tu es mal, quelque chose qui va. Eh bien, regarde d'abord dans ton cœur. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde un peu. Et c'est difficile de forcer la porte. Mais c'est le rôle du pasteur. Savoir quand il faut forcer la porte et reprendre, quand il faut au contraire consoler. C'est difficile, c'est vrai. Mais je répète, la plupart des cas, souffrance, détresse, grand découragement, il y a un mal caché. Qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même, et bien sûr, encore moins l'avouer aux autres, et même pas à Dieu. C'est assez, prends mon âme. C'est assez, prends mon âme. C'est ce qu'on appelle la détresse. C'est la volonté de l'homme qui ne veut pas que découvrir son cœur à la lumière de l'esprit, à la lampe de l'esprit. La femme qui balaye, qui prend un balai, qui nettoie toute la... Elle prend un balai et une lampe. Eh bien, nous n'aimons pas ce travail de la lampe et du balai. La lampe, c'est pour bien éclairer. Le balai, c'est pour atteindre des lieux qu'on ne peut pas atteindre normalement, sinon à se mettre à quatre pattes ou à plat ventre. Et alors on l'atteint avec le balai. Que fais-tu ici, Élie? Que nous retenons ceci, bien-aimés, et que la plupart du temps, nous avons alors à encourager l'âme à regarder elle-même, oui, mais non pas à ses souffrances, à sa détresse, mais à son état intérieur. Et pour Élie, c'est ça, l'état intérieur. Alors nous avons lu comme scène suivante, donc nous n'avons pas lu, il jette le manteau sur Élisée, et nous avons lu que Élie a été pleinement restauré, puisqu'il retrouve Akab, c'est au chapitre 21, au verset 17, la parole de l'Éternel vint à Élie le Tishbite, lève-toi, descends à la rencontre d'Akab. Nous retrouvons là, voilà, Élie qui a retrouvé son énergie, qui a retrouvé la communion avec Dieu, et alors que extérieurement il est mis de côté, il a jeté son manteau sur Élisée, il abandonne à cause, il reconnaît sa faute, il reconnaît que c'est le seul péché de l'Ancien Testament qui est rapporté dans le Nouveau Testament. Élie fit requête contre Israël à Horeb. Dans ce que je suis resté moi seul. Il cherche ma vie pour la prendre. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Eh bien, Élie a porté un profond jugement sur lui-même. Il jette le manteau sur Élisée. Et quand il faut alors annoncer les jugements qui vont fondre sur Israël, il le mentionne et il laissera faire. Il laissera faire Élisée. Un roi 19-17, il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Il va Il abandonne son manteau, il jette ce manteau sur Élisée, mais les jugements envers Hazaël et envers Jéhu, il ne les accomplit pas. Et c'est donc Élisée qui doit le faire. Élie a été donc amené à porter un profond jugement sur lui-même. Et l'Éternel peut de nouveau l'envoyer et se servir de lui avec toute la hardiesse. Et voilà que, après la lapidation de Naboth, un roi 21-13, ils le menèrent hors de la ville, ils l'assommèrent avec des pierres et il mourut. Ils envoyèrent à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Achab ajoute et Jézabel ajoute encore ce crime à toutes leurs mauvaises actions précédentes. L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Lève-toi, descends à la rencontre d'Achab. » Beau de voir comment Dieu s'occupe de nous. Et son but n'est pas de nous laisser dans la misère, dans la souffrance, nous traînant par terre comme une limace. C'est assez, il prend mon âme, il se leva pour s'en alla pour sa vie. Non, Dieu a autre chose en vue pour Élie. Dieu a quelque chose en vue pour chacun de nous, il ne donne pas à l'avance. Il ne nous dit pas, on ne sait pas, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Le Seigneur lui dit bien, ne soyez pas en souci du jour du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. D'où, pour un si grand amour que te rendre au bon Père, aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est Paul qui dit devant, je ne sais plus quel grand, acte 23 ou 26, qui dit, je me tiens, l'Éternel devant qui je me tiens jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Paul ne dit pas « je me tiendrai devant l'Éternel, devant le Seigneur dans les jours qui suivent ». Non, je me suis tenu devant le Seigneur jusqu'à ce jour. Et les jours qui suivent, eh bien, ils sont en la main du Seigneur, en la main du Maître qui protège et conduit son serviteur. Donc, Élie restauré descend et il annonce, une fois encore, le jugement sur Achab, comme il n'a jamais fait. Dieu va détruire complètement la maison. Verset 21, je fais venir du mal sur toi, j'ôterai ta postérité, je retrancherai d'Achab tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre, et je ferai de ta maison comme la maison de Jéroboam, etc. Omri étant devenu chef d'armée, étant devenu roi, justement comme parce que la maison de Jéroboam avait été ôtée précédemment. Bon. Quel courage. Et puis, un jugement encore plus sévère pour Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel à l'avant du mur de Jisraël. Et j'ai eu la bière tenue. Il fait précipiter Jézabel par la fenêtre et les chiens la mangent par terre. Terrible jugement sur ceux qui, ayant été avertis par Achab, par Élie, depuis bien longtemps, par différents jugements, par différentes patiences. 1 Roi 21, verset 29. Vois-tu comment Achab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal en ses jours, mais dans les jours de son fils, je ferai le mal sur sa maison. C'est-à-dire, non pas sur Akazia, mais sur Joram, avec Jéhu, par Jéhu. Eh bien, le Dieu de patience, mais le jugement est annoncé sur ceux qui n'écoutent pas la voix. Et c'est ce que l'on va voir avec 2 Rois 1. Donc, à la fin de 1 Rois 22, nous voyons qu'Akazia, fils d'Akab, règne. Et verset 54, il servit Baal et se prosterna devant lui, c'est-à-dire le Baal de son père et de sa mère, Achab et Jézabel. On arrive donc, en 2 Rois 1, à l'histoire d'Akazia, je crois qu'il a régné 2 ans. 2 ans, il régna 2 ans. Et l'Éternel l'avertit. L'Éternel envoie contre lui, pour réveiller sa conscience, quelques jugements. Premièrement, c'est Moab qui se rebelle. Moab se rebella contre Israël. Au chapitre 2, Rois 3, verset 4, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux payés au roi d'Israël 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine. C'est énorme. 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine, c'était un tribut très lourd. Moab était un petit peuple. Un peuple petit, sans grande armée. D'où c'est pour ça que Joram, joint à Josaphat et au roi d'Édom, le pauvre, va faire la guerre contre Moab, mais apparemment ça ne pose pas de difficultés. Sauf que l'Éternel se met en travers. Bon. Premier avertissement, Moab se rebella contre Israël. Bon, je sais pas. C'est courant, c'est normal. Étant donné qu'Akab est mort, eh bien, tous ceux qui sont assujettis à Akab profitent de sa mort pour se rebeller et recouvrer un peu d'indépendance et ne plus devoir payer ce lourd tribut de 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine. Moab se rebelle. Ça fait partie des choses normales et Akazia n'y prend pas garde. Deuxième avertissement, voilà qu'Akazia tombe. Par le barreau. Pourquoi les barreaux ont cédé, les barreaux étaient trop espacés, c'est pas notre affaire. Il tombe, il est malade, et voilà la peur de la mort. La peur de la mort. Et c'est ce qui caractérise le monde, c'est ce qui caractérise tout homme. La peur de la mort. Nous devons, nous aussi, comme je le redis souvent, nous incliner devant la mort. C'est la condamnation de Dieu contre le péché. Ce sont les conséquences et le salaire du péché, il faut le reconnaître. Et j'ai souvent rapporté la parole que j'ai retenue de la bouche même de M. Chaudier, disant « on s'incline devant la mort ». Eh bien, là, c'est pas, on ne s'incline pas devant Akazia, une peur terrible de la mort, peur terrible de mourir. Alors, que fait-il? Il envoie ses messagers, alors qu'il avait la maison de Baal construite par Akab, son père, à Samarie, alors qu'il avait la stèle construite par son père, stèle d'ailleurs que Joram a détruite. Deux rois 3, fin du verset 2, il ôta la stèle de Baal que son père avait faite. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère, il ôta la stèle de Baal que son père avait faite. On a vu là qu'en plus du temple, en plus de Baal, Akab avait construit une stèle, une colonne. Eh bien, Joram l'a détruit. Joram, le fils, deuxième fils, plus jeune fils d'Akab. Alors, il y avait des dieux, il y avait des prophètes. Et ils étaient nombreux, ces prophètes, puisque 2 rois 3, j'ai bien dit 3 hein, tout à l'heure, hein. 2 rois 3, verset 13, Élisée dit au roi d'Israël, à Joram, fils d'Akab, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Donc il y avait le temple de Baal, il y avait les Baals et il y avait les prophètes qui avaient été installés par Akab et par Jézabel. Donc les prophètes étaient là. Donc il y avait suffisamment de monde en Israël auquel Akazia aurait pu s'adresser. Eh bien non. Ce qui montre encore que quand on est devant la réalité, quand on est touché dans nos corps, quand la mort non seulement pointe son nez ni s'approche, mais est là, à côté, alors il y a une peur panique. Et tous les moyens sont bons pour connaître l'avenir, essayer de se sortir de ce mauvais pas dans lequel on se trouve. Et il envoie vers une abomination, qui est Baal-Zébud. Vous regarderez sur Internet, vous chercherez Baal-Zébud, vous verrez que c'est une grosse mouche, avec un diadème, avec un trident, avec un tas de choses. Baal-Zébud veut dire Seigneur, Baal. Seigneur. Baal veut dire Seigneur. Hein. Donc Dieu, Seigneur, Dieu des mouches. Parce que les mouches en Orient sont effectivement assez pénibles. Et une des plaies d'Égypte était justement les mouches. Le harcèlement, le cassement et la souillure. Le dieu des mouches va vers. Il avait autant de Baals qu'il voulait dans sa maison, à Samarie, dans sa ville. Samarie, qui au passage a été construite par le père d'Akab, Omri. Avant, c'était Tirsa. Et il envoie vers une abomination, le dieu des mouches. Au passage, ce Baal-Zébub est devenu dans le Nouveau Testament Béel-Zébul, c'est-à-dire prince de la maison. Dieu, prince de la maison des dieux, ça veut dire le chef des dieux sataniques, Béel-Zébul, les chefs du peuple juif, accusant le Seigneur de chasser les démons par Baal-Zébul. Béel-Zébul, qui est une déformation de la Baal-Zébub, qui est un dieu des Philistins, écran, oui, Philistins. Une abomination, une horreur, mais qui était respectée. Comme quoi, les fausses religions, tout ce en quoi on prétend s'appuyer, ne valent rien. On est le premier à reconnaître que ça vaut rien, puisqu'on on va encore chercher ailleurs. Que d'amulettes, que de dieux se forgent les hommes. Ah, mais quand il y a un besoin pressant, ah, l'amulette, elle ne suffit pas, et les totems ne suffisent pas, il faut encore aller chercher ailleurs. Très particulier de voir combien la conscience de l'homme est atteinte, et l'homme, là encore, passe par-dessus et ne veut rien reconnaître, et Acacia en est un spécimen caractéristique de son entêtement dans son opposition à Dieu. Quelle chose. Peut-être un type, mais enfin bon, on ne veut pas trop insister sur le côté prophétique plus difficile, un type de l'Antéchrist qui s'oppose de toute façon à Dieu, se faisant passer lui-même pour étendu. Acacia, non, mais il va chercher Béel-Zébub, le dieu des mouches, dieu des Philistins. Élie descend, que dit-il ? Est-ce qu'il n'y a point de dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? Est-ce qu'il n'y a pas de dieu en Israël ? Tiens, on a vu, et c'est pour ça que nous avons commencé par cette scène, nous avons pris cette scène-là en deuxième point, et un roi 18, tout le peuple le vit, tombèrent sur leur face, l'Éternel c'est lui qui est Dieu, l'Éternel c'est lui qui est Dieu. Il faudrait regarder combien d'années s'est passé entre un roi 18 et deux rois 1, j'en sais rien, je ne l'ai pas noté non plus, et donc en tout cas assez peu de temps, puisqu'entre temps il y a eu simplement la fin, deuxième moitié du règne d'Akab. Et voilà que le Dieu d'Israël est complètement oublié. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël qu'on puisse aller consulter ? Il n'y a pas de représentant de Dieu ? Il n'y a pas de représentant de la parole de Dieu en Israël que tu ailles voir cette abomination, le Dieu des mouches à Asdod ? Verset 7, Acacia dit à ses messagers, « Quelle manière d'homme était-ce qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces choses ?» Et lui dire, « Un homme vêtu de poils et ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. » Les messagers ne connaissaient pas Élie. En 2 rois 3, quand les trois rois sont assiégés par la soif, Joram, le frère d'Acacia, le fils d'Akab, ne sait même pas qu'il y a un prophète en Israël. Et il faut qu'un des serviteurs lui dise, il y a ici Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Joram ne connaissait pas Élie. Acacia le connaît, le reconnaît. Et c'est étonnant de voir que peut-être le seul qui dans le royaume connaît Élie comme étant représentant de Dieu, Élie le Tisbite, eh bien c'est celui qui s'oppose le plus fermement à lui. Peut-être qu'Acacia, certainement Acacia, se rappelle la scène au Carmel, la scène du torrent du Kérit, ces 450 prophètes égorgés. Il était encore jeune, s'il y a assisté, ça a dû être une scène terrible pour lui. Et il, instruit par sa mère Jézabel, Il voue une haine implacable à Élie, mais il le connaît. C'est Élie le Tisbite. Ce qui aggrave sa responsabilité et ce qui aggrave ce caractère d'Akasia, de l'homme ouvertement opposé à Dieu. Mais nous relevons un point. Quelle espèce d'homme était-ce ? Quelle manière d'homme était-ce ? Deux choses. Un homme vêtu de poils, une ceinture sur les reins. Deux caractères qui devraient être les nôtres, bien-aimés, pour un si grand amour que te rendre au bon Père. Donne-nous des cœurs obéissants, qu'ils brillent sur nos fronts. Qu'ils brillent sur nos fronts. Le divin caractère que ton esprit grave sur tes enfants. Et là, le caractère, c'est le manteau de poil et la ceinture. Ce manteau de poil, c'est le Jean-Baptiste était vêtu d'un manteau de poil de chèvre. Zacharie 13, il est question que... Il est dit que je prendrai un manteau, il prendra un manteau, prendra pas un manteau de poil pour prophétiser. Il faudrait que, bon, enfin, je ne veux pas trop allonger, il y a des choses à dire. Zacharie 13, verset 4, il arrivera en ces jours-là que les prophètes auront honte. Zacharie 13, verset 4, il arrivera en ces jours-là que les prophètes auront honte, chacun de sa vision, quand il prophétisera. Ils ne se vêtiront plus d'un vêtement de poil. Donc c'était pour mentir. C'était donc le vêtement reconnu, des prophètes. De quoi nous parle ce manteau de poil ? Eh bien, nous pensons aux couvertures du tabernacle, deux en particulier. C'est le tapis de poil de chèvre qui est là, manteau de poil de chèvre, manteau de poil de chèvre généralement, ou de chameau. Et qui nous parle de profonde séparation. Le caractère que l'esprit imprime grave sur ses enfants, les enfants du Père, sur chacun de nous, c'est d'abord la séparation du mal, séparation du monde. Ils sont dans le monde. Jean 17, ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde pour rendre témoignage, Élie, jusqu'à la fin de sa vie, mais pas du monde. J.N.D. dit que le chrétien est comme un mercenaire. Il va et vient dans la maison du maître, mais il ne s'occupe pas des affaires familiales. Tout ce qui se passe dans la maison, les soucis, les questions, les richesses, les besoins, ce n'est pas son affaire. Lui, il fait son travail matériel. Il est là en passant. Les choses du monde ne nous intéressent pas, nous suivons les choses du monde, mais ne nous préoccupent pas et ne nous concernent pas. Nous sommes des étrangers forains sur la terre. Pierre, étranger forain. Étranger, il n'a pas le droit de vote, il n'intervient pas dans les affaires politiques du pays, dans la direction du pays. Et forain, eh bien, il n'a qu'une tente. Le manteau de poil, et puis qui couvrait le tabernacle par-dessus tout, la peau de tesson, c'est-à-dire un animal qui ressemble à la marmotte, qui nous parle d'humilité, d'abaissement, la couleur de la terre, humilité. Il n'y avait rien sur ce tabernacle qui pouvait faire deviner tout ce que les richesses, les grandeurs, les beautés morales que représentent Christ et les siens, et l'or qui était sous ces couvertures. Et la dernière couverture, c'était les peaux de tesson, l'humilité. Rien en lui pour nous le faire désirer. Il a été méprisé, délaissé des hommes comme quelqu'un de qui on cache sa face. Tels nous sommes. Nous sommes dans ce monde méprisés, délaissés. Et puis la ceinture. Deux rôles. Quand on a vu que Élie doit courir devant le char d'Akab, alors il ceint ses reins, c'est-à-dire que, ayant les reins saints, les sandales à ses pieds, le bâton à la main, les rincins, ça veut dire qu'on remontait la robe, le manteau et la robe, on l'attachait avec la ceinture pour que dans la course, dans la marche, les pans de la robe et du manteau ne viennent pas entraver les jambes. Et puis, la ceinture permet de remonter les vêtements et faire que les vêtements ne traînent pas dans la souillure du monde. À Sardes, le Seigneur parle de ceux qui sont devant lui en vêtements, qui marchent devant lui sur la terre, bien sûr. Qui marchent, dans le ciel on ne marchera pas, il n'y aura pas de responsabilité. Qui marchent devant moi en vêtements blancs. Eh bien, la ceinture pour éviter que ces vêtements blancs traînent par terre et se salissent. Et puis la ceinture nous parle du service. Le prophète est là pour servir. Élie l'a abandonné une fois. Il s'en alla pour sa vie. Il avait jeté le manteau sur Élisée. Non, après il jeta le manteau sur Élisée. Mais l'Éternel en a décidé autrement pour lui. Et il le rétablit pleinement. Dans le champ de Naboth, et puis là avec Acasia. Que nous ayons à cœur de revêtir ces vêtements. Et que ceux qui nous entourent puissent dire, c'est un tel, il est chrétien. Celui-là, il est chrétien. Il n'est pas comme les autres, il ne fait pas comme les autres. Bon. L'entêtement d'Acasia, l'opposition d'Acasia, se montre encore lorsque, au verset 12, il fait dire au deuxième chef de cinquantaine, homme de Dieu, d'ainsi dit le roi, c'est le roi qui le commande, descend promptement. C'est l'homme qui commande à Dieu. Eh bien, si je suis homme de Dieu, si effectivement Dieu est là, eh bien, tu mérites le jugement et c'est le feu du ciel. Nous avons vu le feu qui descend, qui consume l'Holocauste. Consume pas le peuple. Consume même pas les 450 prophètes de Baal, mais consume l'Holocauste. C'est le temps de la grâce. Avec Acasia, c'est trop tard. Acasia et Joram représentent les derniers descendants de la maison d'Akab, l'opposition ouverte et délibérée contre Dieu qui ne peut attirer que le jugement. Romains 2, il parlait tu attires sur toi-même la colère de Dieu. Si tu ne tiens pas compte de sa patience et des richesses de sa grâce. Acasia n'ont pas tenu compte, et Joram n'ont pas tenu compte, Acab non plus bien sûr, de la patience et des richesses de la grâce de Dieu, d'où le feu. Nous passons à Luc 9, mais on reviendra en 2 Rois 1. Nous passons à Luc 9 pour voir la différence. Oui, Luc 9, verset 52, verset 51, comme les jours de son assomption du Seigneur s'accomplissaient, le Seigneur dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem, il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis, et voilà que les Samaritains ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et alors ses disciples, qui sont horrifiés de que le Samaritain ose refuser le logis à leur maître, Jacques et Jean, Johann Herbez, fils du tonnerre, voient Cornélie, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie ?» Le Seigneur les reprend fortement, les censure fortement, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Pourquoi ? Le Seigneur venait en grâce. Le Seigneur allait à Jérusalem pour juger Israël, pour détruire le peuple Israël qu'il rejetait, les chefs des Juifs en premier ? Non. Il prenait la place de cet holocauste de 1 roi 18 sur lequel le feu était tombé. Il prenait sa place de ce peuple des coupables dont nous sommes sur la croix, recevant le feu du jugement, recevant la colère de Dieu que nous rappelons chaque dimanche matin. C'était le temps de la grâce. Nous disions, Acab et Acasia avaient lassé la patience de Dieu Il n'y avait plus lieu à la grâce, surtout que Acasia manifeste, je répète encore, une opposition ouverte et délibérée contre Dieu. Homme de Dieu descend promptement. L'homme qui s'oppose à Dieu. Plus de moment de la grâce. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai puissance à mes deux témoins, ils profiteront 1260 jours vêtus de sacs, c'est-à-dire les deux ans et demi de la grande tribulation. Verset 5, Apocalypse 11, verset 5. Si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, pas de pluie comme Élie. Et on retrouve alors en Apocalypse 11 ce témoignage à Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux hommes, mais un témoignage maintenu à Jérusalem. Il faut qu'il y en ait deux pour qu'il y ait un témoignage. Qui revêt que Élie en 2 Rois 1 annonce prophétiquement. Il y a en Apocalypse, pendant la grande tribulation, l'Antichrist, le chef de l'Empire romain. Et la trinité de mal, le dragon qui a été jeté sur la terre. Et pour eux, il n'y a aucun espoir. C'est le feu. Si quelqu'un cherche à nuire à ses témoins de Dieu à Jérusalem, eh bien, le feu sort de leur bouche et les détruit. Si quelqu'un cherche à leur nuire, il faut qu'il soit mis à mort. C'est le caractère d'Élie en 2 Rois 1. Et c'est le caractère des deux premiers chefs de cinquantaine. Mais nous avons lu Luc 9. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, parce que le Seigneur montait à Jérusalem en grâce. Et là, nous trouvons cette grâce magnifique déployée envers le troisième chef de cinquantaine. Celui qui s'approche de Dieu ne sera pas repoussé. Cet homme monte. Il ne crie pas de loin, descend. C'est lui qui monte, qui se met à genoux devant Élie. Que ma vie soit précieuse à tes yeux. Il reconnaît le juste jugement qui est tombé sur les deux capitaines avant lui. Il reconnaît le caractère de révolte contre Élie et donc contre Dieu. Et lui se place là, humble, devant Élie. C'est que ce soit la part de chacun. Que nous puissions venir vers la croix. Nous mettre sur nos genoux, tel que je suis, je viens, et que ma vie soit précieuse à tes yeux. Dieu, est-ce que je veux la mort du pécheur? N'est-ce pas plutôt qu'il se repente et qu'il vive? Demande Dieu, c'est, je crois, en Ézéchiel. Eh bien, Élie est là, et s'il annonce le jugement aux deux premiers capitaines, il descend avec le troisième. Une remarque, il y en aurait beaucoup à dire sur tous ces sujets tellement riches. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne le crains pas. Oh, par exemple. Élie était sur la montagne, hors d'atteinte. Il n'a eu aucune peur du premier chef de cinquantaine, aucune peur du deuxième. Il aurait peur du troisième. L'ange connaît nos faiblesses. L'ange connaît nos défauts. Et il encourage l'Éternel et il dit à Élie, descends avec lui, ne le crains pas. Ce chef de cinquantaine ne mettra pas les mains sur toi. Au contraire, il va te protéger jusqu'à ce que tu retrouves Acasia, que tu tiennes devant lui. Pourquoi dit-il ceci? À la parole d'une femme qui lui envoie dire, l'Éternel me fasse et ainsi ajoute, si demain tu sois comme un des Baals, c'est-à-dire égorgé. Alors, Élie s'en était allé, il avait, nous l'avons dit, décidé ce qui devait lui arriver. L'Éternel le rappelle, ne le crains pas. Dieu connaît nos limites, Dieu connaît nos faiblesses. Et il nous dit, je sais que tu crains l'homme, tu crains même les femmes, Jézabel, faut dire que ce n'était pas n'importe qui, Jézabel, je suis d'accord. Mais enfin, quand même. Et là, c'est un petit souvenir à Élie. Ah, tu te rappelles? Tu avais eu peur de la femme? Tu avais eu peur de Jézabel? Eh bien, va, sois confiant. Cet homme-là ne te fera pas de mal. Au contraire, il va te protéger dans le chemin jusqu'à ce que tu rencontres le roi. L'heure est là, je termine par la fin, là, ce que nous avons lu en Deux Rois 1, la fin de Deux Rois 1, c'est Élie qui s'en va. Magnifique fin pour un croyant. C'est celle qui nous attend, bien-aimés. C'est celle qui nous attend. Nous allons laisser derrière toutes ces scènes, symbole, rappel de la bénédiction de Dieu. Gilgal, Bethel, Gilgal, Jéricho, Bethel, le Jourdain en premier. Toutes les bénédictions de Dieu, ce n'est pas maintenant que nous allons nous y étendre. Rappel aussi de tout ce que l'homme en a fait. Le veau à Dan et à Beersheba, le Gilgal, complètement. Il faudrait lire Amos, il faudrait lire Osée, on n'a pas le temps maintenant. Retournez à Gilgal et péchez, allez à Bethel avec vos faux dieux. L'homme a toujours détruit, abîmé, défiguré, détérioré profondément les bénédictions que Dieu lui a données. Alors, Élie est content, est satisfait. Il en a fini. Il laisse derrière lui tout ça. Pour toutes ces scènes pénibles, de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, et il traverse le Jourdain. Et il va dans le désert. Il était allé dans le désert, fuyant jusqu'à Horeb, fuyant Jézabel. Mais là, il y retourne avec l'Éternel. L'Éternel m'envoie à. Et Élie y va, dans la puissance de l'Esprit. Et que fait-il? Il abandonne toute cette scène. Il arrivera un moment, bien-aimé, où la scène de combat, c'est un lieu de misère, de lutte, de combat. Nous allons en avoir fini, soit par la mort, soit par l'enlèvement des saints, quand le Seigneur, avec une voix de trompette, un cri d'archange, nous rassemblera à sa rencontre sur les nuées. Eh bien, nous en aurons fini avec toutes ces scènes de souffrance. Et le monde alors restera avec tous ces lieux profondément détériorés, abîmé, défiguré par l'homme, mais ce ne sera plus notre affaire. Le Seigneur s'en occupera directement sans nous. Et puis même, il laisse tomber son manteau. Ça veut dire que le combat est fini, le service est fini. Ça y est, j'arrête. Maintenant, je peux arrêter. Il avait décidé d'arrêter. L'Éternel avait dit, non, tu le reprends. Retourne vers Akob, à Nabat. Dans le champ de Naboth, retourne vers Akasia, va vers Akasia. Maintenant, il laisse tomber son manteau. Eh bien, quelle joie aussi de savoir que Dieu a préparé pour nous, non pas ce que nous avons décidé, mais ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le Seigneur dit, si je m'en vais, je reviendrai. Et si je reviens, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi.